Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci d'écouter Studio Tamani, il est 8h à Bamako, la même heure à Labizanga et à Minaka. Mesdames, messieurs, bonjour, voici les titres de cette matinale. La situation humanitaire à Minaka demeure alarmante. Désemparées, les populations tentent de décanter la situation avec des initiatives locales. Aujourd'hui, 6 février, journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Au Mali, plusieurs villages et communes ont abandonné la pratique. Nous parlerons aujourd'hui du cas de Bankass dans le centre du pays. Cannes Côte d'Ivoire 2023, les demi-finales se jouent demain mercredi 7 février. Des consultants sportifs pensent que le Nigeria reste favori au regard de son parcours. Tout de suite, le développement de ce titre avec Sekou Gadjigo. À la mise en onde, nous vous direz, mesdames, messieurs, bienvenue. La situation humanitaire dans la région de Minaka inquiète les populations. Elle fait suite, selon des sources locales, à l'embargo imposé par des groupes armés depuis quelques semaines. Pour la société civile, il est urgent de réagir afin de soulager les populations. Ainsi, des initiatives sont annoncées dans ce sens. Khalifa Gouita.
Après sa rencontre avec les autorités administratives de Menaka, la société civile de la ville s'est réunie ce mardi avec les organisations non gouvernementales. Il s'agit des ONG qui œuvrent dans la zone. Sidi Barka, président de la société civile de Menaka, explique l'objectif de ce rendez-vous.
On voudrait mettre les points sur les i pour que la population puisse équitablement bénéficier des interventions des ONG dans le cadre de l'urgence. Nous avons des PDI ici. C'est pourquoi nous voulons, avec le gouverneur, rencontrer ses partenaires, échanger ensemble, chercher une solution.
Pour le directeur de l'information et des relations publiques des armées, l'augmentation du prix des denrées de première nécessité ne peut pas être imputée seulement à la situation sécuritaire. Colonel-major Souleymane Dambélé, directeur de la DIRPA.
Si le Niger est sous embargo, évidemment, il y aura des problèmes à approvisionner le marché de Menaka. Et c'est que les gens oublient. Les prix ont commencé à flamber quand il y a eu la Covid, il y a eu la guerre en Ukraine. Donc, sécurité à sa part, mais c'est le contexte mondial qui a changé. Prenez l'Abéjarnam Gao, Ansongo, Menaka, il y a toujours des escortes avec les forces armées maliennes.
Des sources locales, des vols humanitaires sont prévus vers la région aujourd'hui.
Toujours dans le nord du pays, dans la région de Kidal, à présent à la frontière avec l'Algérie, le trafic a repris après une intervention des forces armées maliennes dans la zone dimanche 4 février. Selon des sources locales, les opérations qui ont concerné les localités de Ikadawatan, Inhalil et Infarakdan ont permis aux transporteurs de marchandises de circuler. Ces transporteurs étaient bloqués depuis quelques mois par les groupes armés terroristes qui ont instauré un blocus sur les marchandises vers les régions du nord. Ainsi, les commerçants pourront exercer leurs activités pour desservir les marchés de ces zones via la frontière algérienne.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
Je vous le disais dans les titres, la Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines est célébrée ce mardi 6 février dans le monde. Elle intervient au Mali dans un contexte où plusieurs villages et communes annoncent l'abandon de la pratique, notamment dans le cercle de Bankass. Le reportage de Lala Aïcha Walet Imfa.
À Bankass, dans la région de Mopti, les services de la promotion de la femme affirment qu'il y a une nette amélioration de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Madame Gindo Diara Sissé, présidente de la promotion de la femme à Bankass.
Il y a plusieurs villages dans le cercle de Bankass, plusieurs communes, notamment la commune de Sokura, Bankass, Dimbal, Djalassagou et Lessagou, qui ont vraiment signé des conventions d'abandon des pratiques de l'excision. On a même fait des enquêtes de certification. pour certifier des villages qui ont abandonné même cette pratique.
Cependant, des sociologues regrettent que la pratique demeure toujours dans les pays. Yacouba Dogoni, sociologue, estime qu'elle n'est pas sans conséquences sur la vie sociale et conjugale de nombreuses femmes dans la société.
Dans la pratique, la femme peut avoir des complications déjà lorsque la pratique n'est pas suivie par un chirurgien. Donc là, il peut avoir des complications entraînant très souvent l'hémorragie qui peut résulter de la mort de la femme. Dans certains cas, on voit que cette mutilation touche la totalité du sexe de la femme.
À savoir que les activités de cette année, de la dite journée, ont été reportées à une date ultérieure par les autorités.
Le journal de la CAN, suivez l'actualité de la CAN sur Studio Tamani.
Les éléphants de Côte d'Ivoire ont mis fin au parcours des aigles du Mali à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Les Ivoiriens ont battu les Maliens en quart de finale 2-1 aux prolongations samedi dernier. Si la déception a été grande pour les supporters maliens, des motifs de satisfaction existent. Moussa Agmaha.
Fin de l'envol des aigles du Mali dans le ciel ivoirien. Les rêves de décrocher une première étoile pour le Mali en Côte d'Ivoire a été une nouvelle fois brisé. Comme en 2008 au premier tour, 2012 en demi-finale et 2019 en huitième de finale. Les éléphants ont encore barré la route aux aigles, cette fois-ci en quart de finale. Une pilule difficile à avaler, d'autant plus que les espoirs d'une première victoire sur la Côte d'Ivoire. Depuis plus d'un demi-siècle, semblaient à portée de main, mais cette déception de tout un peuple ne doit pas faire perdre de vie les motifs de satisfaction pour l'équipe malienne. C'est la première fois depuis plus d'une décennie que le Mali atteint les quarts de finale. Autre motif de satisfaction, les prestations des aigles du Mali qui ont émerveillé les nombreux observateurs sportifs. À présent que la CAN est terminée pour les aigles, il faut vite tourner la page et se projeter dans l'avenir. Et l'avenir, ce sont les éliminatoires de la CAN prochaine dans un an au Maroc. Et celle de la Coupe du Monde en 2026 prévue au Canada, au Mexique et aux États-Unis.
Cette élimination du Mali en quart de finale se fait sentir dans les espaces publics aménagés pour suivre les matchs sur les écrans géants. Néanmoins, les promoteurs de ces espaces continuent d'animer les lieux jusqu'à la fin de la compétition, même si les visiteurs se font rares. Jiadata Maïga.
Dans la capitale malienne, l'affluence est timide dans les places publiques où les écrans géants sont installés. Malgré tout, les initiateurs de ces espaces rassurent de continuer les diffusions jusqu'à la fin de la compétition.
C'est la fête du foot. Après l'élimination, les gens n'ont plus de morale de suivre les matchs. Nous espérons encore voir des gens.
Les choses sont bien organisées, pas les bagarres. Les matchs seront divisés jusqu'à la finale. Moi, je veux que tous les supporters africains et maliens soient tous les mêmes. Vous venez assister avec nous, on va diviser le match.
Du côté des supporters, si certains n'arrivent pas à digérer le choc de l'élimination du Mali, d'autres témoignent qu'ils continueront à suivre le reste de la compétition devant les écrans géants, mais pas avec la même ferveur.
Je vais continuer à regarder le match.
Naturellement, on va continuer parce que nous sommes fair play. On voulait que cette génération quand même nous ramène la coupe. Ceci n'étant pas, on ne démord pas, on reste confiant.
On ne devrait pas sortir de la CAN de telle façon. Je n'ai même plus envie de suivre le reste. Je suis vraiment gêné.
Des caravanes, des jeux et animations folkloriques sont entre autres les actions menées par les promoteurs de ces espaces pour maintenir la population devant les écrans géants.
Les demi-finales de la CAN Côte d'Ivoire 2023 se joueront ce mercredi 7 février 2024. À l'affiche, Nigeria, Afrique du Sud à 17h et Côte d'Ivoire, RD Congo à 20h. À ce stade de la compétition, toutes ces équipes sont susceptibles de remporter la coupe selon le consultant sportif Suleiman Bobo Tunkara. Il ajoute que le Nigeria reste favori au regard de son parcours, même si on peut s'attendre encore à des surprises, dit-il. Suleiman Bobo Tunkara est au micro de Fatoumata Koudjo.
Si le Nigeria était attendu en demi-finale, on peut en dire autant des autres équipes qualifiées, notamment la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la RD Congo. Il y a des équipes qui ont progressé et qui ont déjoué les pronostics. Le Nigeria est aujourd'hui l'équipe favorite de la compétition. Mais ça va être assez compliqué pour eux parce qu'ils auront en face un autre pays anglophone, l'Afrique du Sud, qui est mal entré dans la compétition et qui après a enchaîné quand même de belles prestations. Quand on va en demi-finale, comme on le dit en football, on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller en finale. Et quand on va en finale aussi, la seule envie qu'on a, c'est de remporter le trophée. Comme on le dit, toutes les équipes qui arrivent en demi-finale peuvent remporter la coupe.
Avec une équipe composée essentiellement de sa sélection junior, la Zambie a créé l'exploit et s'est hissée à la finale de la CAN 94 à Tunis. C'est l'anecdote du jour avec Ali Cissé.
Le 27 avril 1993 est une date marquée à jamais dans la mémoire collective zambienne. Ce jour, l'avion transportant la sélection nationale de football, les Chipolo Polo, crache au large des côtes gabonaises. 30 personnes, dont la totalité de la sélection, périssent dans le drame. L'équipe se rendait à Dakar pour jouer contre les Lions du Sénégal. Kalusha Boualia et Charlie Moussanda, deux miraculeux qui n'étaient pas dans l'avion, échappent à ce crash. La Zambie, déjà qualifiée pour la CAN Tunisie 1994, n'a que deux choix. Faire recours aux jeunes de la sélection de moins de 20 ans ou signer forfait. Elle opte pour la première solution. Et cette sélection menée par le miraculeux Kalusha Boualia crée la sensation et se qualifie en finale du tournoi. Elle est battue par le Nigeria de Rachidi Yekini.
Et c'est cette anecdote qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette édition ainsi que toutes les productions de Studio Tamani via l'application Studio Tamani. Vous pouvez télécharger cette application sur Play Store. C'était à la présentation Sikou Gadjigo, mise en onde. Nous vous direz tout de suite les informations en Bamanankan avec Aïssata Diarra. Le dialogue national inclusif, les assises nationales ou encore le dialogue intermalien qui s'annonce sont autant d'initiatives pour trouver une solution à la crise multidimensionnelle que connaît le Mali. Mais malgré ces efforts, les populations n'ont pas les mêmes avis sur la pertinence et le bilan de ces multiples rencontres. Citoyens lambda, partis politiques ou observateurs, tous proposent par moments de changer d'approche pour aboutir à des résultats concrets. Ils y réagissent dans ce magazine Gouvernance et Citoyenneté, un magazine réalisé par Issa Omar Togola.
De nombreux Maliens sont favorables à un dialogue intermalien. Mais à Sikasso, Bankas ou encore à Tombouctou, les populations se montrent sceptiques quant à l'impact réel de ces échanges sur le processus de paix.
C'est pour prendre l'avis de tout le monde. Tout ce qui concerne les rencontres, les assises, c'est toujours bon.
Mais je pense sincèrement qu'on doit essayer de diminuer ces rencontres-là, essayer vraiment de se focaliser sur les rencontres essentielles.
Ces rencontres n'ont pas eu d'impact vraiment, puisqu'il n'y a pas eu de changement.
Et en s'asseyant, il faut que les assises disent la vérité.
La mise en pratique de ces textes, voilà tout un problème. Sinon, quand on discute en famille, il est fort possible qu'on trouve vraiment la solution au problème.
Au sein de la société civile, on comprend les bien fondés de ces initiatives. Cependant, deux préoccupations majeures persistent, l'absence des résultats et les temps que de tels chantiers nécessitent. Respectivement, Dr Adama Traoré, président de la coordination des associations et regroupements de la société civile au Mali, ainsi qu'Adam Diko, président de l'association des jeunes pour la citoyenneté au Mali, nous donnent leur point de vue.
Il s'agit de la vie de notre nation. Ce sentier qui va t'initier est un sentier gigantesque. C'est une bonne chose, mais il faut un minimum de 8 à 9 mois de travail.
Il faut absolument qu'on accepte de nous projeter dans le temps. À un moment donné, il faut qu'on accepte d'éjecter l'argent qu'on met dans l'organisation de ces différents forats, l'éjecter dans la mise en œuvre des recommandations.
Quant à la classe politique malienne, elle se retrouve divisée face à l'organisation de ces multiples rencontres. Du côté de certains regroupements politiques, on entrevoit une tentative de prolonger la transition. C'est le cas d'Alassane Abba, secrétaire général de la Convergence pour le développement du Mali.
Nous avons tout l'impression, nous autres, qu'on est en train de ruser pour la énième fois et que les gens vont débattre surtout des non-dits. C'est-à-dire le nouveau délai de la transition, juste pour dire que c'est les Maliens qui ont décidé.
Par contre, Karim Goïta, secrétaire politique du Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, y voit une initiative productive.
Ce qui est ressorti du bilan du dialogue national n'est pas positif. C'est pourquoi, d'ailleurs, on parle aujourd'hui de transition et c'est pourquoi on parle d'ailleurs aujourd'hui d'un autre dialogue intermalien. Au cours des assises nationales, il a été question de réconciliation, de la paix. On peut dire que le dialogue intermalien s'inscrit toujours dans la continuité des assises de la refondation.
Une redondance certes, mais toutes ces rencontres ont été utiles selon Dr Youssouf Karambé, analyste. Cependant, il précise qu'il faut plus de pragmatisme pour ce dialogue intermalien en cours si les autorités souhaitent produire quelque chose de positif.
À un degré plus ou moins, en tout cas pas
ce que l'on souhaite. Toutes les rencontres ont apporté quelque chose, même les accords d'Alger. Au moment où on signait, il fallait les signer parce que le Mali n'était pas dans une bonne posture. Ce dialogue doit être très inclusif, très ouvert, très démocratique et laisser les gens vraiment exprimer leur ras-le-bol, leur inquiétude, leur souffrance et puis aussi ce qu'ils pensent du Mali de demain.
En plus de cette proposition, certains intervenants estiment qu'il faut désormais privilégier des rencontres scientifiques et la mise en application des recommandations issues des rencontres précédentes. C'est ce qui met fin à ce magazine Gouvernance et Citoyenneté réalisé par Issa Omar Togola.